Cours Bezrat Hashem sur le chapitre 6. Et on va dédier ce cours pour la Refoua Shlema de Yoni Ben Yael Julie Bezrat Hashem qui est une Refoua Shlema avec des miracles. D'autant plus que ce soir, nous sommes un soir particulier. Ce soir, nous sommes le 14 Adar Rishon. Donc c'est un jour qu'on appelle Purim Katan, le petit Purim. Shimon, Botishma, Shimon.
Bien.
Aujourd'hui, ta femme elle écoute là? Absolument, ça, tu le répéteras.
Alors,
assis-toi. Donc ce soir, c'est Purim Katan. Purim Katan, 14 Adar et 15 Adar. Donc ce soir, demain, après-demain. À propos de Purim, c'est écrit Venahaforou. Venahaforou, que tout se retourne. Tout pour ça, on va te souhaiter Shimon, on va se souhaiter nous-mêmes, que Bezrat Hashem, la situation se retourne.
Amen.
Que ton fils y guérisse rapidement, qu'il sorte du coma, qu'il revienne en bonne santé si Dieu veut, encore mieux qu'avant.
Amen.
Voilà, Bezrat Hashem, c'est ce qu'il faut souhaiter. Il faut pas avoir peur, Dieu peut faire des miracles, il n'est pas limité Hashem. C'est un moment important. On entend beaucoup de choses en ce moment, des gens comme ça qui passent par des situations difficiles. Et bien au Hashem, on va entendre des miracles si Dieu veut. Parce qu'on est le mois de Hadar. Et le Satan, il veut nous enlever la simcha du mois de Hadar, mais nous, on va pas le laisser le Satan. On va se battre. Si Dieu veut, Akadosh Baruch Hu veut nous amener des grands miracles. Bezrat Hashem. Alors, on va commencer notre cours sur le chapitre 6 du Tanya. Donc, chapitre 6 de Igaret Hatshuva. En fait, on a déjà commencé la semaine dernière. Rapidement. Je suis à la page 220. La question qui nous dérange depuis le début du chapitre 6, c'est... On a expliqué, jusqu'au chapitre 5, qu'il y a un système dans la Torah. Quel est ce système? Un système dans lequel une personne... Ah, c'est pas le bon, livre?
C'est pas le bon bouquin.
Avec le manteau, vous voyez.
Page 220. Vous avez? Voilà. Chapitre 6, voilà.
Chapitre 6.
Page 220. On a expliqué, jusqu'à présent, dans le Tanya, qu'il y a un système. Il y a un seder. Comment ça fonctionne? Lorsqu'un juif fait une mitzvah, il est connecté avec Hachem. Lorsqu'un juif, Dieu préserve, fait une avéra, il se déconnecte d'Hachem. Et dans les avérot, il y a deux catégories d'avérot. Il y a des avérot qui nous déconnectent partiellement d'Hachem. Comme par exemple, on avait donné l'exemple des 613 vies, vous vous rappelez? Donc il y a des avérot dans lesquels tu coupes un fil. Mais la corde est encore là. Mais il y a des avérot tellement graves qu'on appelle chayav karet. Des avérot pour lesquels on est passible de retranchement, Dieu préserve. Comme par exemple celui qui mange du chametz à Pessah, ou celui qui mange à Kippour, etc., etc. Que pour des avérot comme ça, chayav karet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la corde est coupée. Et que normalement, celui qui était concerné par ça, il devait quitter ce monde avant 50 ou 60 ans. Et pourtant, on pose la question à l'Admor HaZaken. Il dit pourtant, dans la réalité, c'est pas ce qu'on voit. On voit qu'il y a des gens, des réchaïms, des mécréants, qui font des grosses avérotes, pour lesquels ils devraient partir avant 60 ans. Et pourtant, on voit que ces gens-là vivent jusqu'à 120 ans. Donc, en d'autres termes, la question n'est pas que sur Karet. La question n'est pas que sur la peine de Karet. La question est en général. On a l'impression dans notre monde qu'il y a beaucoup d'incohérences. Ça, c'est la question sur laquelle on s'est arrêté la semaine dernière. Il y a des incohérences. C'est pas normal. Il y a des gens, d'ailleurs, c'est la fameuse question de Job. Yov. Il y a des gens qui se comportent bien et qui souffrent. Il y a des gens qui se comportent mal et qui kiffent. Alors vous me direz, t'es pas dans la tête de chacun. C'est une bonne réponse. C'est une très bonne réponse, c'est vrai. Faut jamais se fier aux apparences. Vous savez, des fois, vous voyez des stars. Ils sont là, en train de sourire, avec du maquillage, etc., avec beaucoup d'argent, et ils croulent sous les millions de dollars, mais ils sont malheureux. Pourquoi tu crois que quelqu'un, il meurt d'overdose à 35 ans?
Heureux.
Hein? Pourquoi il est parti prendre une overdose à 35 ans? Qu'est-ce qu'il est parti se shooter à 35 ans? Hein?
Hein?
Bien sûr. Pourquoi tu crois qu'il est parti? Parce que voilà. Parce qu'il est mal. Hein? Il y en a qui sont morts avant. Bien sûr.
La malédiction des 26 ans. Jimi Hendrix, Janis Joplin, tous morts au même âge.
Mais voilà. Donc, vous appelez ça du bonheur?
Pas du tout.
C'est quoi? C'est qu'en vérité, il est constamment à la recherche de.
25 ans, mais.
26 ans, 22 ans, tous le même âge.
Très jeune.
Brian Jones, Janis Joplin.
Mike Brandt. Il s'est jeté par la fenêtre.
Donc comment vous expliquez ça? C'est très grave. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vrai? Mais maintenant, on pourrait répondre, on pourrait te dire, faut pas se fier aux apparences. C'est pas parce qu'une personne, il se balade avec beaucoup d'argent et qu'il a un train de vie qui est impressionnant, que ça veut dire que son train de vie est effectivement viable. C'est faux. Mais bon, ça c'est bon en théorie, mais concrètement, dans la réalité, des fois, il y a des incohérences. Et c'est dérangeant. En tant que juif croyant, c'est dérangeant. Des fois, la réalité n'est pas en conformité avec la foi. C'est-à-dire, un juif qui est croyant, il a la foi qu'une personne se comporte bien, il a des récompenses. Une personne qui se comporte mal, il a des punitions. Imaginez, vous êtes dans une famille. Il y a des enfants. Un enfant qui a 4 ans, l'autre enfant qui a 5 ans. L'enfant qui a 4 ans, il fait des bêtises, il prend des récompenses. L'enfant qui a 5 ans, il est premier de la classe, il prend des claques. Qu'est-ce qu'il va dire l'enfant de 5 ans? Il va dire, mais c'est pas normal. Et je vais vous dire pire que ça. L'enfant de 4 ans, il va dire, c'est pas normal. Il va dire, mais c'est pas normal. Pourquoi je me prends pas une claque, là?
Non, mais l'autre, il peut dire aussi, moi aussi, je vais basculer.
Bah, bien sûr, c'est pas normal. Alors, ça, alors là, si vous voulez, je caricature un petit peu. Mais c'est un petit peu la question qu'on a. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'il y a des gens qui se comportent mal, qui ont des bonnes choses qui leur arrivent? Alors, on a commencé la semaine dernière à développer la réponse. En fait, on est arrivé en bas de la page 221 pour être précis. On a expliqué la chose suivante. On a dit que il y a une différence avant le Beth Amikdash et après le Beth Amikdash. À l'époque du Beth Amikdash, effectivement, le système du monde tournait de façon cohérente, de façon logique. Ça veut dire quoi? Comment on l'a dit, David? J'ai perdu le repère, là. Non, là. Il fait miroir. Donc comment c'était à l'époque du Beth Amikdash? À l'époque du Beth Amikdash, tout était carré. Ça veut dire que celui qui faisait une avéra, il savait que le lendemain, il allait avoir une galère. Et le lendemain, quand il avait la galère qui arrivait, il levait les yeux vers Hachem et dit, reçu 5 sur 5. J'ai compris. C'était facile. Alors, tu vas me dire, comment les gens, ils fautaient si c'était tellement, si se prenaient une claque? Comment ils fautaient? Parce que quand même, le tsaharel était très fort. Le plaisir, l'attirance, la tentation était tellement fort qu'il le poussait à fauter. Mais au moins, ce qu'ils avaient, c'est qu'au moins, ils avaient des repères. Ils avaient des repères. C'est-à-dire, celui qui faisait une bonne action, il savait qu'il allait recevoir la récompense. Il attendait la récompense, il la recevait. Celui qui faisait une bêtise, il savait qu'il allait prendre une claque. Il savait. Il attendait. Aujourd'hui, demain, après-demain, elle va arriver. Elle va pas tarder. Mais depuis que le Beth Amikdash s'est détruit, en plus du fait que le Beth Amikdash s'est détruit, c'est quoi la définition de la galoute? C'est quoi la définition de l'exil? C'est que les repères ont été floutés. Que maintenant, on a du mal à avoir des repères. Comment tu expliques ça? T'as des gens, par exemple, t'as des pays du tiers-monde, dans lesquels t'as des gens corrompus de chez corrompus, qui sont là en train de se mettre plein d'argent, d'accord? Ils ont là des milliards, des milliards, des milliards, ils savent pas quoi faire avec. Et en même temps, avec l'argent qu'on leur a donné officiellement pour subvenir aux besoins de leur peuple. Et entre toi, t'as des gens qui meurent de faim. Comment tu expliques ça? Où est la justice? Pourquoi Hachem, il a des choses comme ça? C'est compliqué. Des gens qui sont là, je sais même pas s'ils croient en Dieu. Ils disent, bon, y a pas de Dieu, je fais ce que je veux. De l'autre côté, des gens qui meurent de faim. Alors, c'est ce qu'a expliqué l'Admor HaZaken. Maintenant, comment c'est expliqué? Il a dit qu'à l'époque du Beth Amikdash, tout était carré. Mais une fois que le Beth Amikdash n'est pas là, malheureusement, tout est flouté. Tout est flou. Vous savez, c'est comme on dit dans le Shira Ma'alot, Aïnou Kecholmim. Nous sommes comme dans un, c'est quoi un rêve? Comment vous définissez un rêve? Un rêve, c'est un endroit où tout est possible. Une chose et son contraire sont possibles. Ça vous est pas arrivé une fois de rêver d'une personne qui n'est plus de ce monde et vous la voyez dans votre table, chez vous à la maison. Et quand tu te réveilles, tu te dis, mais mince, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il est parti il y a 10 ans, celui-là. Comment il a atterri dans ma table? Au contraire, tu vois à la même table deux personnes qui n'ont rien à voir. Ce sont pas la même famille, ce sont pas du même monde, etc. Parce que dans un rêve, une chose et son contraire sont possibles. Et c'est ce qu'on vit, en vérité, dans notre rêve. Dans le rêve de l'exil, alors là, le rêve au sens négatif, dans le rêve de l'exil, tu peux avoir une personne qui se comporte mal et qui profite. Comment ça se fait? Donc on a dit, c'est l'exil. Oui, mais quand même, comment ça se fait? Alors on va expliquer. On s'est arrêté dessus la dernière fois. Hachinit Lapsha, donc je suis à la page 221. Hachinit Lapsha Ashpa'ata. Beyut Sirot Denoga. Je suis à la page 221, deux paragraphes avant la fin. Voilà où on s'est arrêté la semaine dernière. En fait, il explique quelque chose suivant, très profond, mais c'est intéressant. Pour envoyer l'énergie sur cette terre, il y a deux canaux. T'as un canal général et t'as un canal dédié. Je vais expliquer tout ce que ça veut dire. La semaine dernière, on avait donné l'exemple avec les ministres et le chien, vous vous rappelez? Non. On va expliquer. Tu as deux canaux. Tu as un canal classique, un canal dans lequel tout le monde se sert. Un canal ouvert. Une fréquence que tout le monde peut capter. Et tu as un canal dans lequel cette fréquence va avoir le code, il faut capter, et il faut mériter, et tu peux être mis dehors tout le temps. C'est quoi la différence? Le Zohar explique comme ça. Il dit, tu as un canal qui est ouvert à tous. C'est le canal qui fait que la terre tourne. C'est le canal qui fait qu'il y a les arbres, il y a les montagnes, il y a les astres, tout tourne. Et c'est le canal qui fait aussi que les goïms fonctionnent. Que le monde fonctionne. Chez les goïms, on dit à Kadosh Baruch Hu, il n'est pas trop regardant. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il met à plein de goï, il faut vraiment qu'il a poussé le bouchon. En général, à Kadosh Baruch Hu, sur les goïms, il est moins regardant. Ça, c'est le canal numéro 1. T'as le canal numéro 2. C'est quoi le canal numéro 2? Le canal numéro 2, c'est le canal dédié. Dans lequel à Kadosh Baruch Hu, ce canal, pour recevoir mon énergie, il faut que tu le mérites. Et si tu ne mérites pas, t'es dehors. Ça, il faut capter celui-là. Celui-là, il faut réussir à le capter, il faut le mériter. Tu ne mérites pas, t'es dehors. Alors, à l'époque du Beit HaMikdash, les Juifs savaient qu'un Juif n'appartient qu'au canal numéro 2. Il ne peut pas prendre du canal numéro 1. C'est-à-dire qu'un Juif qui dit, laissez-moi, je veux vivre comme un goy. À l'époque du Beit HaMikdash, ce n'était pas possible. Un Juif qui disait, je veux vivre comme un goy, il coupe les vivres. Parce qu'on lui dit, écoute-moi bien, un non-Juif, il est dans le canal numéro 1. Donc là-bas, on n'attend pas trop de résultats. Toi, tu es dans le canal numéro 2. Dans le canal numéro 2, pour mériter de recevoir, pour recevoir, il faut mériter. Tu ne mérites pas, tu ne reçois pas. Tu décides de vivre, tu dis, mais laissez-moi, je veux pas être juif. C'est ma tranquille. J'ai envie d'être un bon goy. Hein? J'ai envie d'être un bon goy. Qu'est-ce qu'on te dit? À l'époque du Beit HaMikdash, c'était impossible. On dit, tu peux pas. Canal numéro 2, obligatoire. Maintenant, depuis l'époque que le Beit HaMikdash était détruit, qu'est-ce qui se passe? Depuis le moment que le Beit HaMikdash est détruit, un juif, malheureusement, et c'est ça la part du floutage, c'est que le juif, malheureusement, il peut décider de vivre comme un goy. Et ça marche. Il peut dire à Hachem, ton canal numéro 2 ne m'intéresse plus. J'ai pas envie de ton canal dédié. J'ai envie de vivre comme un goy. J'ai envie de vivre comme le chien, il vit dehors. De quoi vit un chien? Ben, il se balade, il a, il fonctionne, il trouve, etc. Un juif peut dire aujourd'hui à Kadosh Baruch Hu, il peut lui dire, laisse-moi tranquille, je veux vivre comme un goy. Ça veut pas dire que Dieu accepte, mais c'est-à-dire que dans la réalité, ça fonctionne. Donc, en d'autres termes, on te dit, ne crois pas que ça a vraiment changé. En vérité, ça n'a pas changé. Un juif doit toujours appartenir au canal dédié, au canal de la relation directe avec Hachem. Seulement, avant, à l'époque du Beit HaMikdash, c'était le canal exclusif. Tu veux pas ça? Ça marche pas. Dans l'exil, c'est plus le canal exclusif. Dans l'exil, un juif peut dire, je vis comme un goy, et ça marche. Ça, c'est une première chose. C'est très dur à entendre ça. C'est parce que tout de suite, on s'imagine des gens qu'on connaît ou qu'on a connus, etc. Des gens qui vivent comme des goyim. D'accord, et ça va très loin, ça veut dire qu'ils peuvent se marier avec des goïms, ils peuvent vivre comme des goïms. Je connais des gens malheureusement, enfin, je ne connais pas personnellement, sinon ils ne seraient pas dans cette situation, en tout cas j'espère pas. On m'a parlé des gens qui ne font même pas kippour. C'est-à-dire des gens qui étaient de famille, peu importe de quelle origine séfarade, d'accord. Et qui ont fait, je ne veux pas dire d'où parce qu'après on va dire le Marocain, tu disais l'Algérien, d'accord. Hein, voilà, mais des gens qui ont complètement déconnecté, complètement. Ça veut dire, je ne sais pas si vous voyez la situation. Coupé, ça veut dire que marié avec une goya, il habite au fin fond des Yvelines. Il a changé de nom.
C'est justement hein? Parce qu'il n'y a plus cette relation de cause à effet que finalement les gens font.
Ah oui, il a changé de nom le gars. Imagine, ça veut dire c'est changer de nom. Ça veut dire rayez-moi de vos listes. Ça existe beaucoup plus qu'on le pense malheureusement. C'est horrible. Oui, parce que alors, comment tu parles à quelqu'un comme ça?
Paradoxalement, ils sont très sionistes. Hein? Et ils vont faire plein de trucs, et moi je suis juif, et machin,
c'est pas vrai. Je les connais, c'est compliqué. Alors voilà ce qu'on te dit. On te dit la chose suivante. On te dit, pourquoi ça marche? Ça, il faut savoir qu'à l'époque du Beit HaMikdash, ça aurait jamais été possible. À l'époque du Beit HaMikdash, un juif qui décidait de ne plus suivre la Torah et les mitzvot, c'est comme si il coupe le robinet. Tu coupes le robinet, ça marche plus, ça fonctionne plus, il n'y a plus d'énergie. Mais de nos jours, qu'est-ce qui se passe? De nos jours, on te dit, un juif, il peut dire, au lieu de m'alimenter du canal numéro 2, canal dédié, je vais me servir comme le goy. Je vais être comme un goy. Comme un goy, c'est-à-dire que je suis là, je suis un type bien. Qu'est-ce qu'on attend d'un goy?
Très bien.
On attend d'un goy qui soit un type bien, qui soit bien éduqué, qui tue pas, qui vole pas, qui soit honnête, croit en Dieu. Bon, très bien. Vas-y, écoute, moi, crois en Dieu, peut-être je crois pas, je sais pas. Je suis un type honnête, ne me prenez pas la tête, je ne m'en vais pas plus. Qu'est-ce que tu peux dire à un gars comme ça? On connaît tous des gens comme ça. Des gens comme ça qui te disent, mais où est le problème? J'ai fait de mal à personne. Je vole pas, je tue pas, je suis honnête, je suis un père de famille, etc. Ok. Ça, ce n'est possible qu'après la destruction du second temple, du temple en général. Donc ça, c'est un premier élément.
On sait même pas s'il a choisi finalement.
Oui, c'est encore un autre élément.
Tu as dit le mot choisir. Moi, je t'interpelle là-dessus parce que finalement, ils sont barrés loin de la religion, mais c'est pas par choix. C'est pas un choix. C'est pas je décide de boire un peu d'orange.
C'est lui qui a raison.
C'est pas par choix.
Il vit comme il veut.
Bah oui, non, Chazé Shalom, c'est-à-dire il est à côté de la plaque.
Et finalement, elle est fou, c'est nous, pas lui.
Oui, si tu veux, en fait, pour s'imaginer, je t'explique en vérité. En vérité, pour tout à l'heure, j'ai l'exemple de l'éducation. En fait, dans l'éducation, c'est comme un enfant qui est là, il ne voit pas son père. Il est chez lui à la maison, il ne voit pas ni son père ni sa mère. Seulement, ils ont laissé les directives, tu comprends. Ils nous dit, voilà, n'oublie pas mon fils, fais ça, fais pas ça. Bon, maintenant, ils ne sont pas là. Et lui, il voit, il essaye un peu. Ils lui ont dit, tu vas dormir à 20h, attention, hein. Il va dormir à 20h, il se lève à 21h, regarde, il se passe rien. Il allume la télé, il allume ce que tu veux. Et moi, tu vois bien, il n'y a pas de problème. Il dit, bah, je continue. Moi. Et de l'autre côté, t'as l'autre gosse, il est là, il dort. Je veux dire à papa, oh papa, il n'est pas là, papa. Il est fini, il n'est plus là, papa. C'est compliqué. C'est comme ça qu'il vit un juif qui est en galoute. C'est un juif qui est en galoute, c'est un juif qui dit, je vois pas papa. Hein? Il n'y a plus de discernement. Mais c'est pas fini. C'est encore pire que ça. Ce qu'on va dire dans les mots. Alors, je tourne la page 222. Ve'azai, et à ce moment-là. Yachol, deuxième paragraphe. Ve'azai, à ce moment-là. Yachol, gam achote ou foche Israël, et kabel chayu le koufam nashayim abemit. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Il dit à Kadosh Baruch Hu, regarde, si un animal, il n'a pas besoin d'être méritant pour recevoir ce qu'il a besoin, pourquoi moi je ne serais pas comme un chien? Moi aussi je suis comme un chien. Qu'est-ce qu'on attend d'un chien? Dieu, pour donner à manger à un chien, il lui dit, tu te comportes bien, tu vas recevoir, tu te comportes mal, tu vas pas recevoir. Le chien, c'est un chien, mais il est comme ça, il tourne, il mange. Et ben, lui, il dit, mais moi, maintenant, Dieu, tu me considères comme un chien. Laisse pas tranquille. J'ai pas envie d'avoir des comptes à rendre. Le chien, il a des comptes à rendre à quelqu'un? Tout le monde a des comptes à rendre. Mais vous comprenez que les comptes à rendre d'un chien et les comptes à rendre d'un être humain sont pas les mêmes. Donc, des fois, t'as les êtres humains qui sont comme ça, qui disent à Dieu, laisse pas tranquille. Tu veux que tu me fasses tourner comme tu fais tourner les chiens, les animaux, les as, les moustiques, tout ce que tu veux. C'est-à-dire, je veux que ça tourne. Je veux que ça tourne, je ne veux pas comprendre.
Il ne dit pas ça à Dieu, il dit aux hommes, il dit aux juifs.
Il dit ça au système.
Au système, oui, mais pas forcément à Dieu.
Non, il ne parle pas à Dieu, il ne connaît pas Dieu. Il ne sait pas ce qu'il dit. Il parle au système. Il se dit ça. Il se dit, pourquoi je dois être différent? Pourquoi je dois être en train de m'angoisser à penser une histoire, à penser un temple qui est venu, qui est reparti, qui doit revenir, etc. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi vivre. Hein? Viens. Marcel, viens. Ah, c'est Marcel, lui, le vrai Marcel. Alors.
Ah, ouais, c'est vrai. Il y a
Yves, là. Ah, Yves,
qui
là?
Oui.
Alors, je vais aller plus loin que ça. Donc, il te dit en vérité, voilà ce qui se passe. À ce moment-là, ce qu'il faut. Si, ah, c'est pas le bon livre?
C'est numéro 2, ça.
Ah, bah, là-bas, vous en avez. Tu prends le tome 3, là-bas, il y en a.
Okay. Il n'y en a pas numéro
3. Non, si peut-être pas, il n'y en a pas là.
Il n'y en a pas numéro 3.
Tome 3.
Merci, moi.
Regarde, je ne sais pas si c'est celui-là. Si c'est pas celui-là.
Ah,
ok. Donc je disais que à ce moment-là, le juif, il va dire, laissez-moi, je vais être comme un animal. Et regardez comment l'idée que je viens de vous dire, le roi David résume ça en trois mots. Trois mots. Que Moshe Katouv, comme il est écrit, que Moshe Ar Balechaï Mamash, que Moshe Katouv, Nimshal Kabemot Nidmu. Le roi David, il résume ça en trois mots. Il dit qu'une personne comme ça, il est comparé à un animal. Alors nous, quand on lit ce que le roi David, il veut dire, bon, on se dit, bon, il veut dire qu'on est comparé à un animal, il se comporte comme un animal. Mais en vérité, le roi David, il veut dire quelque chose de beaucoup plus profond. Il te dit, tu peux avoir affaire à une personne, un juif qui se comporte comme il faut. Il fait pas la Torah à mais il se comporte comme il faut, c'est un type bien, c'est pas un animal. Pourquoi on dit qu'on le compare à un animal? Pas dans le sens qu'il se comporte comme un animal. Dans le sens que sa vitalité, sa source de vitalité est comparée à un animal. De la même façon qu'un animal n'a pas des comptes à rendre, de la même façon, lui dit, moi je vais être comme un animal. Je ne vais pas avoir de... Exactement, je ne vais pas avoir de comptes à rendre à personne. Donc c'est une première raison qui explique comment ça se fait que tu as des Rechaim qui vivent bien finalement, sans problème, alors que d'un autre côté, ils font d'Averot. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de passer au canal 1. C'est comme ça. Ils ont essayé de passer au canal 1, mais ils ont le canal 1. Hachem, il te donne un canal dédié pour toi. Nous, on a le canal qu'il faut payer. Il faut payer la chaîne chaque mois, etc. Il faut mériter, qu'il faut capter. Mais non, t'as des gens qui disent, moi, je paye pas. Moi, je veux prendre l'abonnement comme tout. Moi, j'ai pas d'abonnement. Moi, je veux capter comme tout le monde. Laisse-moi tranquille. Hein? On dit, ok. Je peux rien dire. Je peux rien dire. Débrouille-toi. Mais ça marche. Ça va plus loin que ça. Véa de Rabat, au contraire. Béyé de Terset, Béyé de Terras. En vérité, non seulement qu'un rachat, finalement, il peut s'alimenter comme un animal, sans avoir des comptes à rendre. C'est encore plus que ça. En vérité, il peut recevoir encore plus que s'il faisait des mitzvot. Bon, ça va être chaud, là. En faisant des averot, on peut recevoir plus que si on faisait des mitzvot. Comment on peut dire ça? Regardez, c'est le Zohar qui dit ça. Alpi amevoir, bezohar kadosh parachat pekoudé. Selon ce que, comme dit David, hein, il a raison finalement. Selon ce que dit le Zohar parachat pekoudé, shekol shefa vechayut elim shpot la adam, à l'adam, adam atarton. Alors le Zohar a dit quelque chose de très fort. Très très fort ce qu'il dit le Zohar. Il dit en vérité, chaque juif, peu importe qu'il soit religieux ou pas religieux, dès que le, étant donné qu'il est juif, il a en lui une énergie extraordinaire. Chaque juif, peu importe ce qu'il a fait dans sa vie, peu importe dans quelle famille il est né, peu importe ce qu'il a fait, peu importe avec qui il est marié, peu importe les 400 coups qu'il a fait, peu importe. Chaque juif a en lui une énergie extraordinaire. Seulement. Il dit, là-bas le Zohar, il dit, « Bécha ave rega shose ara bene Hashem, bemaase ou bedibour ou berura vera, akol nishpalo mechalot asitracharam voir un chambre Zohar Kadosh. » Je suis à la page 223, j'accélère parce que j'explique à l'oral. Le Zohar, il dit, en fait, c'est très simple. Quand tu es juif, à Kadosh Baruch, il t'envoie une grosse énergie. Maintenant, à Kadosh Baruch, il te dit, à toi de choisir par où tu veux que cette énergie passe. Si tu fais une mitzvah, cette énergie va passer par un canal de Kedusha. Si tu fais une avera, la même énergie qui te fait passer par le canal de Kedusha, elle va passer par le canal des forces du mal, pour arriver chez toi. C'est la même énergie. Vous me suivez ou pas? Je répète. C'est très fort qu'on dit ici. Le Zohar te dit, quoi qu'il arrive, un juif, quand il naît et toute sa vie, il a en lui un capital d'énergie extraordinaire que personne n'a dans le monde. Personne. Il n'y a que les juifs qui ont ce capital d'énergie. Et Hachem, il a donné aux juifs le libre arbitre. Il lui dit, c'est toi qui vas décider. Le capital d'énergie, tu vas le recevoir, de toutes les façons. Mais tu as le choix, par où il va passer. Est-ce qu'il passe par la Kedusha, ça, si tu comportes par les mitzvot, ou est-ce qu'il va passer par les forces du mal? Un juif qui fait des averot, du coup, les forces du mal reçoivent une très très grande énergie. Pourquoi? Parce que le temps que l'énergie fasse le chemin depuis Akadosh Baruch Hu jusqu'aux juifs, comme elle transite par les forces du mal, ça dure quelques... je peux pas donner de durée, mais ça dure quelques instants, quelques heures, etc. Entre-temps, les forces du mal ont une grande énergie. Et plus il y a de juifs qui fautent, plus les forces du mal ont de la force. Parce que c'est un canal. Ce qu'on va expliquer dans la suite. Il faut savoir que le mal n'a pas d'existence propre. Si... À l'instant où je vous parle, tous les juifs du monde cesseraient de fauter, le mal cesserait d'exister à la seconde. Pourquoi? Parce que le mal n'a pas d'existence propre. Qu'est-ce qui donne l'existence au mal? C'est nous, les juifs. Lorsqu'un juif fait une avéra, il dit Hachem, il dit, tu me fais passer par le compte par le compte dans les îles le compte offshore.
Balance, la balance.
Hein, tu peux passer, donc du coup, toi comme tu demandes à Hachem, Hachem est obligé d'alimenter le compte offshore.
Bah oui.
T'alimentes le compte offshore, il existe. Mais imagine-toi que maintenant on arrête d'alimenter les comptes offshore. C'est du vent. C'est des adresses fictives qui n'existent pas. Tu comprends? Ça veut dire qu'en vérité, plus il y a de juifs qui font des averot et plus les forces du mal sont alimentées. Donc d'abord, c'est très grave ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que finalement, on alimente le circuit du mal. Mais c'est plus, encore plus grave que ça. C'est que les forces du mal, comme ils voient qu'on est les grands fournisseurs, et si c'est un bon rachat, c'est un excellent fournisseur, il envoie de la grosse énergie. À chaque fois qu'il joue, pac, ça passe par lui. Donc les forces du mal, dès qu'ils ont commencé à mettre beaucoup d'énergie, ils disent, attendez, on va bûchonner nos fournisseurs. C'est qui le fournisseur? C'est le rachat. Donc on va lui envoyer ce qu'il veut. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux une Ferrari? On te donne une écurie. Pourquoi? Juste continuer à fauter. On attend juste une chose, que tu ne te poses pas de questions. En fait, les forces du mal, tellement le rachat, ils suivent bien leurs besoins, que les forces du mal disent, tu sais quoi, on veut t'occuper, que t'aies pas le temps de réfléchir. On veut pas que tu dises, j'ai fait des fautes. On veut que tu sois occupé d'avéra en avéra. Que t'as pas le temps de réfléchir, que tu vis dans une pseudo-illusion, que tout va bien, que tu kiffes. On va te mettre tout ce que tu veux. Les voitures que tu veux, les filles que tu veux, tout ce que tu veux, juste que ta tête soit occupée par des avérotes. Qu'à un moment, que t'as pas un instant de vide dans lequel tu dis, attends, qu'est-ce que je fais là?
Ah oui.
Hein? Et les forces du mal, elles envoient.
Terminus, c'est guénom.
Ah, ben, bien sûr. Mais le problème, c'est que des fois, ça prend du temps avant d'arriver au terminus. Et toi, tu vas à l'extérieur, en tant que juif religieux, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? On t'a dit, t'as pas compris. Celui que tu vois en face de toi, c'est un fournisseur de forces du mal. Et pourquoi il va bien? Parce que les forces du mal le fournissent, comme ils continuent à fauter.
Finalement, c'est un argument pour notre défense, finalement.
Mais c'est très très grave. T'imagines, ça veut dire qu'en vérité, comme dit la Gemara, un rachat, il est pris dans une spirale.
C'est pas de sa faute.
Si. Ah, bien sûr, c'est de sa faute.
Bien sûr. C'est pas de sa faute, le pauvre.
Bien sûr, c'est de sa faute. Non, mais je parle d'un vrai rachat.
Sauf qu'on est unis.
Je parle pas du rachat d'aujourd'hui qui connaît pas. Non.
C'est Coluche, tant que je gagne le jour.
Oui. Je parle pas du rachat.
On a tout compris.
Qu'est-ce que tu fais au fond?
Eh ben oui. Mais vous comprenez la spirale.
J'ai mis une pièce.
Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui va dormir à 6h du matin, à quelle heure il va se lever? Attendez, à quelle heure il va se lever?
5h plus tard.
Il va se lever à 2h l'après-midi. Maintenant, s'il se lève à 2h l'après-midi, à quelle heure il va s'endormir?
Encore plus tard.
À 6h du matin?
Ah oui.
Comment tu veux qu'il se réveille à 2h l'après-midi? Comment tu veux qu'il s'endorme à 11h30 du soir? Pas possible. C'est ce que dit la Gemara. La Gemara dit que les Rechaim, leur vie, c'est comme une spirale, pleine de regrets. Très dur à quitter la spirale.
C'est comme la spirale, hein.
Pourquoi? Parce que il regrette constamment, mais il a pas le temps de regretter. Parce qu'à peine il se lève, quand il va dormir, il a des regrets, il a des remords, mais il est à moitié bourré.
C'est pas grave.
Bourré ou... D'accord? Il est shooté. Donc, c'est pas bien. D'accord? Il est juste en train de dire c'est pas bien, il se lève le lendemain. Pareil. D'accord? Il recommence. Parce que le Yetzara et le Satan, les forces du mal, il y a tant de temps, demain on t'en envoie une autre. Tu vas recommencer demain. On te lâchera pas comme ça. T'es notre fournisseur. Et ça, vous savez, on le voit. Bon, je pourrais pas donner des exemples, mais on donne des, vous savez, c'est par exemple, comme vous avez des gens comme ça qui commencent à travailler avec la mafia. C'est un exemple, ça n'a rien à voir. D'accord? Ils t'obligent à travailler avec eux.
Ouais, c'est ça.
Ça veut dire que, une fois que t'as commencé, le gars il dit c'est bon, je vais m'arrêter. Je vais arrêter. J'aime ta famille, d'accord?
J'aime ta famille.
On a les moyens pour
te faire. Ça veut dire que tu peux plus t'arrêter. Tu m'essayes, laissez-moi. J'ai gagné de l'argent, c'est bon, je vais m'arrêter. Tu peux pas t'arrêter. C'est fini. Tu iras jusqu'à la mort. Imaginez-vous que le Yetzer, hein?
Jusqu'au baiser de la mort.
Jusqu'au bout, on te lâchera pas. C'est horrible. Le gars, il dit, mais laissez-moi. C'est vrai, je vais m'arrêter. J'ai gagné, j'ai mis un peu de sous à côté, je vais arrêter.
Non.
Je peux pas. On te lâchera pas. On t'en enverra. Ça veut dire qu'en vérité, nous, celui qui voit de l'extérieur, il peut dire, regarde celui-là, il a la belle vie. Bon, pour moi, c'est pas une belle vie, mais bon, on pourrait dire, il a une belle vie, il a l'argent, il a tout ce qu'il veut, etc. Mais ce que tu comprends pas, c'est que tout ça, c'est du matériel que le Yetzer Hara lui envoie. Pour qu'il continue à fauter.
C'est-à-dire que le Sarah, il a le pouvoir de donner l'argent.
C'est sa faute, mais, ou pas de sa faute?
Bien sûr, c'est de sa faute.
Ah oui, je connais pas.
Parce que c'est lui qui est, c'est lui le fournisseur.
Il a travaillé le truc, le mec.
Non, attends, tu entends dire, tu veux dire, tu veux que H, il est au niveau de HM, mais ça va, qu'il a très jeune.
Ça veut dire comme ça. Non.
Il peut donner de l'argent.
Je vais t'expliquer. Oui. Lorsque un juif fait une Avera, c'est comme un bouton. T'as un bouton A, bouton B. Tu fais une mitzvah, tu dis HM, l'énergie que tu dois m'envoyer, elle passe par là, par la Kedusha. Donc elle passe par la Kedusha. Elle va passer par les mitzvot, par la Torah, par la synagogue, par la mitzvah, par les brachot. D'accord? Maintenant, quand tu fais une Avera, t'appuies sur le bouton B. Tu dis HM, ce que tu dois m'envoyer, je veux que ça transite par les forces du mal. Maintenant, entre temps, le temps que ça passe par les forces du mal, c'est comme une banque. Est-ce que la banque a de l'argent propre?
Elle
travaille avec ton argent. Donc la banque, elle te dit, mais vas-y, continue à fauter, parce que sinon j'ai plus d'argent, moi, j'ai rien du tout, moi. Avec quoi je travaille? Je travaille avec ton argent. Je travaille avec tout ce qui transite par moi. Donc c'est pour ça, lorsque la banque, elle voit ça, lorsque le Tsar, il voit ça, lorsque les forces du mal, elles voient ça. Ils disent, attends, on a la planète entière à nourrir. Mais on va pas nourrir les autres d'abord, on va d'abord nourrir le fauteur. Pourquoi? Parce que c'est grâce à lui qu'on est là. Donc s'il s'arrête, on n'est plus là. Donc on lui donne en premier. Ils disent, mettez tout le monde de côté, servez-le en premier. Tu veux l'écurie, pour lui. Toi, tu vas dire, t'as pas compris. C'est la force, tout ça, ça appartient aux forces du mal. Bon, maintenant, comme a dit Shimon, un mot très juste, il a dit, il faut bien que ça s'arrête un jour. Parce que, tu dis, ouais, bon, on lui donne, hein?
Il a dit en hébreu, on n'a pas compris.
Ah oui, mais il faut bien que ça s'arrête, ça veut dire, jusqu'à quand ça ira comme ça?
Oui.
Ouais, il faut bien que ça s'arrête.
Hein, faut que ça s'arrête. Ça, c'est l'overdose. C'est-à-dire qu'il monte, il monte, il monte, mais à un moment, c'est du vent. Donc, combien tu peux pas construire avec du vent? Mais le Yetzara a quand même une force de te faire traîner ce vent et de te faire croire que ce vent a du sens pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, comme ça. T'as des gens comme ça, 30 ans. Pendant 30 ans, ils vivent dans le vide. Et ils construisent sur du vide. Tu dis, c'est que t'es content de ta vie, tu dis, j'ai acheté une belle voiture. Oui, mais ça change quoi? En quoi faire une belle voiture, ça t'a rendu heureux?
Qui vont en vacances,
tu comprends? Ça veut dire que finalement, il a conditionné son bonheur par rapport à la belle voiture. Il dit, mais toi, dans tout ça, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu construis? Il n'a rien construit, il n'en a rien à faire. Dis-moi, ce que j'ai construit, j'ai une belle voiture. Mais on s'en fiche, ta voiture. Pourquoi? Quand tu vas partir après 120 ans, on dira, si j'y, monsieur Ferrari, Enzo, d'accord? C'est fini. La Ferrari, elle sera ailleurs. Alors, à quoi ça sert tout ça? Mais le Yetzer Hara, il fait en sorte que la personne soit occupée. D'ailleurs, vous savez, la plus belle bracha qu'on a dans la Kedusha, c'est quand on est occupé aussi. Occupé par des mitzvot, occupé, occupé, occupé. Là, c'est le contraire. Le Yetzara, il s'assure que la personne est tout le temps occupée. Ouais, quel est le prochain gadget, la prochaine bêtise, le prochain truc, comme ça, il s'arrête pas.
Un jour, t'as compris pourquoi tu roules en Marseille? Le bon Dieu te protège.
C'est un truc très fort que dit Rassir Adivi, c'est encore ce que tu dis, et je pense inverse ce que tu dis justement, c'est que tout ce qui arrive, c'est vrai les gosses, tout ce qui arrive au peuple d'Israël, c'est à cause d'Israël, à cause
de nous. Oui.
Donc c'est ça, c'est j'entends dire ça là.
Tout, il faut savoir que toutes les forces du mal sont alimentées par nous. C'est, et je dis pas ça pour un sentiment d'élitisme, c'est la réalité. Pour ça, le Zohar il pose la question. Le Zohar il dit, lorsque Mashiach va venir, comment Akadosh va faire pour éradiquer les forces du mal? C'est vrai, on a du mal à imaginer. Le mal prend tellement de place dans ce monde, on a du mal à imaginer comment Hachem va enlever toutes les forces du mal. Le Zohar pose la question. Vous savez ce qu'il répond le Zohar? Il dit, Hachem n'aura pas besoin d'enlever les forces du mal. Pourquoi? Lorsque Mashiach va venir, on va tous arrêter de fauter. Et automatiquement, les forces du mal, elles vont fondre comme de la cire. Imaginez-vous un mur de cire. Ah, tu as un mur de cire, t'as l'impression qu'il est dur, comme la pierre. Et à un moment, tu mets un coup de soleil, il n'y a plus rien. Après, quand il y a la neige, je ne me rappelle pas, il y a la neige. Tu as l'impression que c'est un mur. C'est un mur. C'est vrai. Un peu de soleil qui arrive, il n'y a plus rien. C'est de l'eau, c'est rien du tout.
Exactement.
C'est la même chose. Lorsque mon cher va venir, on va réaliser que tout ce qu'on croyait être les forces du mal, etc., en vérité, c'est rien du tout. Et plus que ça, qui l'alimentait, c'est nous. Tant que toi, tu l'alimentes, il tient. Dès que tu arrêtes d'alimenter, il tient plus. Comment on l'alimente? Avec l'Averot. Quelle Averot? Toute l'Averot, comme il dit ici. Alors regardez, c'est très dur. Bécha'a Sheosé, en haut de la page 223. Bécha'a Verega, au moment et à l'instant. Sheosé Ara Bene Hachem, qu'un juif fait le mal aux yeux de Dieu. Quelque chose qui n'est pas bien. Mais Maasé, un acte interdit. Obedibour, ou une parole interdite. D'accord? Hein, c'est, tu as pas le bon livre? Ou une parole interdite. D'accord? Ou bien? Non, c'est trois, c'est ceux-là. Voilà. Obéroré Avera. Ou même une pensée d'Avera. Ça va? Je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a. Un acte, c'est grave. D'accord? Bah, t'es parti avec une femme interdite, c'est grave. Je prends cet exemple, vous allez comprendre pourquoi. Après, tu t'as parlé, t'es parti parler avec une femme interdite, t'as commencé avec elle, c'est dangereux, c'est compliqué. T'es pas passé à l'acte, mais c'est compliqué. Après, il va dire qu'est-ce qu'il y a? Irouré Avera. Il me pensait. Qu'est-ce qu'il y a? Une pensée, ce qui sert à rien. Il dit, ça change pas. Maasé, dibour, oir, ouré, dans les trois cas, tu appuies sur le bouton, tu dis Hachem, mon énergie, elle passe par là. Et chaque seconde que tu es dans la Vera, c'est comme les jeux, tu vois. Chaque seconde que tu es dans la Vera, l'énergie, elle passe par là. Dès que tu arrêtes de faire la Vera, l'énergie arrête de passer par là. C'est pour ça, le Yetzara, il fait tout pour t'alimenter la Vera, pour que tu kiffes, tu continues, que tu essaies, que tu recommences. Parce que t'es un fournisseur. Hakol nishpa lo mechalot asitra achara amvarim shem zohar kadosh.
Comment un homme il peut maîtriser? Attends, excusez-moi.
Mais c'est la réalité.
Comment un homme il peut maîtriser ses pensées toute sa vie?
Non, mais je parle pas de ça. Non, bon.
Maîtriser toutes ses pulsions. Je suis en admiration devant.
Mais déjà. Non, mais déjà, on va essayer.
Voilà la nature humaine. Même moi, en tant qu'individu.
Chacun a ses pulsions.
Déjà, on va essayer d'avoir une bonne moyenne. Je comprends ce que vous dites. Mais déjà, on va essayer d'avoir. C'est pour ça qu'on est tous rachats en vérité. Mais déjà, on va essayer d'avoir une bonne moyenne. C'est-à-dire que dans l'ensemble, au moins, on va essayer d'appuyer tout le temps sur le bon bouton. Mais le rachat, malheureusement, il n'arrive pas. Il est tout le temps à côté de la plaque. Mais le pire, c'est qu'il se rend même plus compte, parce qu'il est vraiment dans un engrenage qu'il n'a pas le temps de réfléchir. Il n'a pas le temps. C'est-à-dire que entre deux cuites, il n'a pas le temps de réfléchir. Il n'a pas le temps. C'est la réalité. Il n'a pas le temps de réfléchir. Non, mais c'est exactement la même chose. Adam Arishon, lorsqu'il a fait la faute, il a alimenté les forces du mal.
Tu peux tout travailler.
Oui. Mais attendre une telle perfection. D'abord, par définition, un homme, il n'est pas parfait. Donc, je pense qu'il n'atteint jamais ce niveau de. Parce que pour moi, c'est ce niveau-là qui est décrit.
Non mais ne parle pas, pourquoi tu parles de perfection?
Dis-toi, pour moi c'est la perfection.
Non mais je comprends, mais dis-toi que chaque seconde de ta vie, si tu fais une bêtise, ça passe à gauche. Tu fais une mitzvah, ça passe à droite. Après on fait une moyenne. Que dans sa vie par exemple celui-là, il était 5% à gauche, 95% à droite, c'est pas mal. Il a alimenté les forces du mal mais le moins possible. Mais même que le rachat, il est 95-5.
Le combat c'est tous les jours. Ah non mais
oui, chaque jour, chaque instant.
Alors, en fait, la clé de la réponse, je vous pose une très bonne question. La clé de la réponse, c'est qu'Akadosh, on combat tous les jours, mamache. La clé de la réponse, c'est qu'Akadosh Baruch vous a donné une chose qu'il n'a pas donné au Goïm. La Bechira, libre arbitre. Le Rambam, il dit des mots, alors c'est des choses qu'il faut dire, qu'en vérité, le libre arbitre des goyim est limité. Ça veut dire que un goy, c'est pas parce qu'il est goy, c'est parce qu'en vérité, c'est nous qui avons une particularité. Parce que la normale des choses, c'est que, par exemple, est-ce qu'un chien peut décider de changer sa nature? Non. Est-ce qu'une montagne peut décider de changer sa nature? Non. Est-ce que le soleil peut décider de ne plus éclairer? Non. Parce que Dieu a créé, Dieu a créé le cours des choses. Donc c'est-à-dire que dans le cours des choses ont une direction. De la même façon, est-ce qu'un non-juif, quelqu'un qui n'est pas juif, est-ce qu'un être humain peut changer le cours de sa vie?
Oui.
Alors, Maïmoné te dit, il peut, mais de façon très limitée. Son libre arbitre reste limité.
Pour un non-juif,
hein. Oui, c'est clair. Et c'est normal que c'est comme ça. Parce que Dieu t'a créé comme ça. Tu es comme Dieu t'a créé. Tu peux pas changer. Par contre, à nous, l'homme Israël, Dieu nous a donné quelque chose. Il nous a donné une Bechira Chofshit. C'est quoi Bechira Chofshit? C'est un libre arbitre absolu. C'est quoi absolu? Ça veut dire que, à Kadosh Baruch Hu, il dit, je te donne le libre arbitre, même de faire des choses que moi je suis pas d'accord et que moi je pensais que t'allais pas le faire. Je te donne la possibilité de me défier. Que moi, je pense comme ça. Me défier, oui. Non. Un goy, tu crois qu'il va défier Hachem, mais il est dans l'ensemble tel que Hachem l'a construit. Il peut défier Hachem. Il peut mal se comporter. Mais dans l'ensemble, c'est pour ça qu'on punira jamais un goy aussi fortement qu'un juif. Bien sûr. Il a laissé cette loi noachide, et s'il fait des bêtises, il sera puni, d'accord? Et il est juste parmi les nations. Vous avez raison, c'est une très bonne question. Mais il ne sera jamais autant récompensé qu'un juif et autant puni qu'un juif. Pourquoi? Parce que sa marge de manœuvre n'est pas aussi forte qu'un juif. On le voit. Les juifs qui sont allés dans le bien, ils ont fait des choses extraordinaires. Et les juifs qui sont mis dans le mal, malheureusement, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Comment tu expliques ça? Comment il t'a parlé de Coluche? Il est Coluche, il a dit, quand il parlait de l'autre, il a dit, d'où on sait que l'autre il était juif, hein, j'ai pas envie de dire son nom, hein, c'est quoi, comment c'est? Parce que sa mère pensait que c'est le bon Dieu, d'accord?
Et lui il a fait une affaire,
et lui il a fait une affaire, une multinationale qui marche toujours. Ça veut dire que toute la force est venue de là. Vous imaginez? Des siècles et des siècles et des siècles de haine qui continuent jusqu'aujourd'hui. D'où ça vient tout ça? D'un juif. Et je serais pas étonné si le prof... Oui, il y a des hypothèses très sérieuses qui disent qu'il est juif.
C'est sûr.
Ça m'étonnerait pas.
Qui ça?
Mohamed.
Leur prophète. Alors.
Pourquoi il a bossé avec
vous? Pourquoi? Parce que mamache, parce que c'est logique. On te dit que... C'est pas seulement une telle force, c'est qu'on te dit que la marge de manœuvre d'un être humain en général est limité. Mais à nous, les juifs, à Kadosh Baruch Hu, on nous a donné une marge de manœuvre, Bechira Chofshit. Deux mots. Bechira Chofshit. Libre arbitre, Chofshit. C'est quoi Chofshit en hébreu?
Libre.
L-I-B-R-E. Libre. C'est-à-dire quoi libre? C'est-à-dire affranchi de toute contrainte, y compris une contrainte divine. Alors, deux secondes. C'est une bonne question. Très bien. Même les nazis. Hein? Alors, j'y arrive. Donc maintenant on comprend. Maintenant on comprend. Lorsque moi je suis devant une situation, j'ai le choix entre faire une mitzvah ou faire une avéra. Pourquoi on me récompense grave quand je fais une mitzvah et pourquoi on me punit grave quand je fais une avéra? Parce que j'avais le libre arbitre. C'est le choix, le résultat n'appartenait qu'à moi. C'est moi qui décide. Le choix du bouton A et du bouton B n'appartenait qu'à moi. À l'époque, quand on avait fait cette première série de Tania, il y avait un film qui était sorti, Matrix. D'accord? Moi, bon, je l'ai pas vu, mais on m'a raconté qu'à un moment dans ce film, d'accord, ça m'intéresse ce truc, à un moment dans ce film, il y a un moment, on propose, je sais pas comment il s'appelle l'acteur, on lui propose deux pilules. C'est ça? Vous me confirmez? Hein?
Ouais, là, j'ai pas très bien compris ce film.
Moi. Ah, t'as peut-être hein? Très intéressant. Ah, c'est pas tant mieux. Ne le regardez pas, alors. Ah, voilà, c'est ça.
Eric, tu l'as vu, le film, ou pas?
Non, mais ne le regardez pas. Je veux pas vous inviter à le, vous inviter. Hein?
20 ans.
Alors, on m'avait raconté comme ça. Qu'il y avait deux pilules. C'est-à-dire que ça veut dire que t'es une personne qui évolue dans une réalité. Et après un moment, c'est ça, il choisit entre la pilule bleue et la pilule, Yves, tu cherches là le...
Non, c'est un message.
Ah, Dissiri, d'accord. Alors, donc tu choisis. Et si tu prends la pilule bleue, tu rentres dans la réalité de ce monde. Et si tu prends la pilule rouge, au contraire, je sais pas, je me rappelle pas. Ouais, ou si tu prends la pilule rouge, tu rentres dans une autre dimension, une autre réalité. Ça veut dire que ça dépend que de toi. C'est toi qui décides de la réalité dans laquelle tu évolues. Ben, si vous voulez, c'est la même chose. Le tzadik et le rachat, on te dit, Dieu ne t'a pas créé tzadik. Dieu ne t'a pas créé rachat. Dieu te dit, c'est toi qui as la manette dans ta main. Tu vires à droite, tu vires à gauche, tu vires à gauche. Et c'est pour ça que tu peux pas te plaindre après. Après 120 ans, tu peux pas dire à Hachem, Hachem, pourquoi j'étais à gauche? Hachem, il dit, t'avais la manette entre tes mains. Le volant était entre tes mains. Le gars, il vire à gauche, après, il se demande pourquoi il était à gauche. Vire à droite, sera à droite.
C'est grave, on est seul responsable de...
Seul responsable. Seul responsable. Alors après, bon, comme il a dit, ton prénom, hein, Eric, il a dit que d'un autre côté, à Kadosh Baruch, quand il nous juge, il prend en compte beaucoup de circonstances atténuantes. Par exemple, la famille dans laquelle il est né, le pays dans lequel il a évolué, l'environnement, les épreuves qu'il a traversées dans sa vie, etc., etc. C'est les paramètres qu'Hachem prend en compte.
Les influences,
etc. Mais ça n'empêche pas que le juif, il a quand même toujours la manette entre ses mains. Et qu'il a les deux boutons. Et que même s'il devient ma boule, il a toujours les deux boutons dans sa main. T'appuies là, ça passe par la kedusha. T'appuies là, ça passe par la force. Veha Adam ou Baal Bechira. Voilà les mots, dans les mots ce qu'on vient de dire. L'homme a le libre choix. Im le kabel ashparato mechalot asitra achara. De recevoir sa vitalité par les forces du mal. O mechalot akdusha. Ou bien, de recevoir sa vitalité par les palais de sainteté. C'est ce que dit le Zohar. C'est toi qui décides. Bouton A, bouton B. Shemehem nishpaot kol marchavot tovot ve ukdoshot. Que de eux, viennent toutes les pensées. Alors comment ça se fait que c'est comme ça? Alors, en fait, c'est très fort ce qu'il a expliqué ici. Là-bas, le Zohar, il dit un mot très fort. Il ramène l'histoire qui s'est passée avec Rivka. Vous vous rappelez Rivka? Rivka était enceinte. Et elle avait des contractions bizarres. Dès qu'elle passait à côté des synagogues, elle avait des contractions, se tirait d'un côté. Dès qu'elle passait à côté des maisons de Avodah Zara, des maisons d'idolâtres, son ventre tirait d'un autre côté. Alors elle se posait la question, elle se dit, quel gauche est en train de faire ici? C'est un gauche qui est attiré par les deux, c'est pas possible. Elle est partie voir Shem, la yeshiva, parce que c'est pas une question pour une sage-femme, c'est une question pour un rabbin, elle comprend pas, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il lui a dit, c'est pas un bébé que tu as, c'est deux bébés. Il y a un bébé qui est attiré vers les forces du bien, un autre bébé qui est attiré vers les forces du mal, pour les transformer, mais bon, il est attiré vers les forces du mal. Et là-bas, il dit un mot très fort. Il dit, zé le oumadze. Ils seront toujours l'un contre l'autre. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, pour créer le libre arbitre, il a été obligé de créer tout ce qu'il a créé dans le bien, il a créé dans le mal. Il faut qu'il y ait une parfaite adéquation. Pourquoi? Parce que sinon, il n'y a pas de libre-arbitre. Je vais expliquer ce que je veux dire. Imaginez par exemple que je vous propose deux pommes. Et je dis, tu vas choisir entre les deux pommes. Maintenant, une pomme, c'est une belle pomme rouge. Et l'autre pomme, elle est fracassée.
La rouge.
Laquelle tu prends?
La rouge.
Est-ce que tu l'as choisie? Non, c'est pas un choix. Pourquoi c'est pas un choix? Parce que le choix a été conditionné. C'est évident que tu allais prendre. C'est pas un choix. On n'avait pas besoin de toi pour choisir. C'est évident, c'était logique que tu prennes la pomme rouge. Maintenant, on va te présenter deux pommes rouges, aussi belles l'une que l'autre. On te met une à droite, l'autre à gauche. Laquelle tu vas choisir?
De droite, droite.
Donc t'es encore conditionné. Parce que t'es droitier. C'est très difficile dans la vie à trouver des situations où on n'est pas conditionné. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils travaillent, les publicistes. Sur quoi ils travaillent? Sur le conditionnement. Ils travaillent ton cerveau pour que dès que tu arrives au magasin, instinctivement, ta main apprend le produit sans que tu réfléchisses. Que quand tu vas au rayon de pâtes, dans ta tête, les meilleures pâtes, c'est Panzani, il n'y a pas de question.
Et pour ça, il faut qu'ils te connaissent.
Hein? Tu vois? Ça veut dire, ils vont travailler dans ta tête, que dans ta tête, tu vois les autres pâtes, tu dis non, c'est pas de la marque, ça, c'est la bonne marque, ça. Mais tu te rends pas compte, c'est dans ta tête, ça se passe, ça.
Psychologique.
Hein? C'est psychologique. Il faut qu'ils te suivent. Donc en fait, ils nous conditionnent. Mais en vérité, au fond, nous avons le prira rouge, non, le libre arbitre. Nous avons le prira. Et pour créer le libre arbitre, Akadosh Baruch Hu est obligé de créer tout ce qui crée dans le bien et crée dans le mal. Et ça va dans tous les sens. Je vais expliquer ce que je veux dire. Par exemple, si Akadosh Baruch Hu donne à quelqu'un un Yetzer Tov, un bon penchant qui est très fort, il est obligé de lui créer un Yetzer Hara qui est équivalent. Si Akadosh Baruch Hu donne à quelqu'un un petit moteur, il donne un petit frein. Gros moteur, il lui faut des freins carbone. Obligé. Tu sais pourquoi? Parce que ça va de pair. Tu peux mettre un gros moteur, ça va de pair. C'est-à-dire tu veux un gros Yetzer Hara. Tu vas un gros Yetzer Tov ou un gros Yetzer Hara? Agmara raconte une histoire. Une fois, il y avait Abaye, le maître Abaye, qui il prenait la route pour aller d'une ville à l'autre. Et en prenant la route, il a vu de loin un homme et une femme qui n'étaient pas mariés entre eux. C'était le mari de l'un et la femme de l'autre. Et il les a vus marcher ensemble. Il dit, qu'est-ce qu'ils font cela? Il les suit et il voit, ils prennent la route pour s'éloigner de la ville. Une route où il n'y a personne, une route déserte. Donc lui, de toutes les façons, c'est son chemin. Donc il a suivi de loin. Et il attendait que... Ouais. D'accord? Pour les attraper en flagrant délit, pour leur dire, là, je t'ai attrapé, marié. C'est un problème ce qu'ils ont fait. C'est à source. On n'a pas le droit, t'as rien à faire avec une femme. C'est pas un isolement, mais bon, c'est presque. D'accord? Et ils avancent. font toute la route, ils arrivent à destination, il se passe rien. Alors lui, Abaye, il s'en évolue, il s'est dit, attends, et bon, c'est des gens simples, quoi, ils ont fait la route ensemble, c'est assourd, enfin, ce qu'ils ont fait, mais ils le savaient pas, ils l'ont fait naïvement, ils ont fait la route ensemble, voilà, ils ont fait du covoiturage, on leur dit ça aujourd'hui, naïvement, tu vois, un homme, une femme, ils ont fait du covoiturage.
Blablacar.
Hein, voilà, blablacar, etc. Alors Abaye, il était perturbé par ça. Il a dit, comment c'est possible que moi, j'ai pas envie de dire le grand Abaye, mais comment c'est possible que moi, d'accord, que moi, Abaye, qui est tout le temps dans la Torah, je les vois, j'ai la tête déplacée, j'ai les pensées déplacées, je me dis, ils vont faire, d'accord? Alors qu'eux, ils ont même pas pensé à ça, comment c'est possible? Alors il était perturbé, il en a parlé avec son maître, Rabbi Yochanan, si mes souvenirs sont bons. Et Rabbi Yochanan, il a dit comme ça. Il a dit, mais bien sûr. Il a dit, on a une tradition qui dit, Kol Hagadol Mechavero, Yitzro Gadol Emenu. Lorsqu'une personne est plus grande que son ami, son Yitzhara est plus grand aussi que son ami. Il a dit, ça veut dire comme ça. C'est les gens que tu as vu avancer, cet homme et cette femme, c'est des gens simples. Donc ils ont un Yitzhara qui est simple aussi. Le Yitzhara, il n'est pas élaboré, il ne cherche pas les complications. Il ne connaît pas les plans particuliers. Toi, tu as un Yitzhartov qui est très fort, tu es plus fort qu'eux. Ton Yitzhartov, il est beaucoup plus puissant. Donc, pour créer un système de libre arbitre, Akadosh Baruch Hu est obligé de créer
une balance.
Parce que sinon, c'est pas cohérent. Si d'un côté, tu as un gros Yitzhartov et de l'autre côté, Tsar, il est petit, c'est évident que tu vas écouter Yitzhartov. Donc, quand Hachem, il donne un gros Yitzhartov, il est obligé de te créer à côté un gros Yitzhar. Kol Agadol Mechavero Yitzhar Gadol Eminu. De la même façon. Tout ce que Dieu fait, il fait toujours Zé, l'Erumat, Zé. Zé, l'Erumat, Zé. L'un face à l'autre, à force égale. C'est-à-dire, il n'y a pas d'handicap. On démarre.
Zé, Negedzé.
Zé, le mâche. C'est l'un face à l'autre.
On dit que le Tzahara, il est plus fort.
Non, le Tzahara, si tu veux, le Tzahara, il vient en avance. Donc, il joue à domicile.
C'est ça.
Mais.
Il a quand même.
C'est tout. Mais ils sont aussi forts l'un que l'autre. Parce que, si tu prends, puisque tu dis à domicile, si tu prends un match dans lequel d'emblée, t'as une équipe surentraînée et l'autre équipe qui est des amateurs, c'est évident que l'équipe surentraînée va gagner. Donc Hachem.
Il a 13 ans d'avance.
Ah oui. Donc Hachem, il te met. Oui. Mais t'inquiète pas, il est certainement très fort aussi. Hachem, il te met deux choses qui sont équivalentes. Et c'est valable aussi dans les forces du bien et les forces du mal. Voilà. Là, j'arrive au bouton A ou au bouton B. Que autant les forces de la Kedusha sont puissantes, autant les forces du mal sont puissantes. Et c'est toi qui vas choisir qui je vais alimenter. Et les deux sont aussi fortes l'une que l'autre. Parce que s'il y avait un qui était moins fort que l'autre, automatiquement, le libre arbitre n'aurait pas existé.
Ah oui, pour que les forces, oui. Voilà.
Donc les forces du mal existent. Vous savez, il y avait des histoires comme ça avec le rabbi, des gens qui étaient pris par des marabouts. Des histoires très sérieuses. Vous savez, des gens qui étaient dans des sectes, etc. et tout. Quelqu'un qui a toute une histoire avec le Rav Pevzin, de Ronald Livracha. Une fois qu'un qui est venu le voir. Paris. Ah, Paris, c'est là. Il est venu le voir, c'est son fils qui nous a raconté. Ibadel Chaim Tovim. Il nous a dit, une fois, il y a quelqu'un qui est venu voir son père. Et qui a dit, voilà, j'étais dans une secte avec des noirs, etc. Mais des marabouts, des vrais, pas des charlatans, des vrais. Et en fait, il était hanté. Hanté, ça veut dire qu'il essayait de se séparer d'eux, mais impossible. Impossible. Ça veut dire que, à chaque fois, il y avait des trucs bizarres qui arrivaient, des luces qui tombaient, il se trouvait avec des fourchettes, enfin, des trucs de malade, que je peux pas vous raconter, j'ai pas envie de vous enlever l'appétit. Des trucs de fou. Parce que la sorcellerie existe. Existe.
À
la demande de Rav Pevzner. Rav Pevzner, il lui a dit, écoute, ça, moi, la halakha, tu me poses la question, je connais. Mais, ça, il faut voir le rabbi. Il dit, rabbi, je connais pas rabbi, il dit, écrivez pour moi. Ils ont envoyé une demande express au rabbi. Et le rabbi a donné plusieurs consignes. D'accord? Ils ont pas tout publié. Une partie, ils ont publié. Une des consignes que le rabbi l'avait dit, ce monsieur, il avait quelque chose, je crois que d'abord, on devait installer à la porte de sa chambre deux mezouzot, une à droite, une à gauche. À part ça, il a dit la chose suivante. Il a dit, il faut pas faire entrer aucun objet qui appartient au goyim, à ces goyim-là, à la maison. Parce qu'en fait, ce goyim-là, qu'est-ce qu'il faisait? Il lui envoyait des courriers. Et par les courriers, dès que les courriers entraient dans la maison, ça a amené à la malédiction dans la maison. Donc il lui a dit, le rabbi avait dit, c'est pas vous qui devez avoir le courrier, quelqu'un d'autre doit avoir le courrier. Et toute une série d'instructions avec des lettres du rabbi, des réponses, etc. Ça veut dire que...
prospectus, c'est-à-dire dans la boîte aux lettres, il faut les jeter tous, il faut pas
les... Ah non, c'est spécial, c'est ciblé, non mais vous imaginez. Non mais pourquoi je vous raconte ça? Pourquoi je vous raconte ça? Parce que des fois, on entend, je dis, non, les marabouts, c'est n'importe quoi, c'est du tménique, c'est pas du tout. Il faut savoir que de la même façon que les forces du bien existent, les forces du mal existent. Elles ont une force aussi puissante que les forces du bien. Seulement, on a la chance que Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que, au final, lorsque les forces du bien se battent contre les forces du mal, Hachem a fait que les forces du bien finissent par gagner. Finissent. Mais à quel prix? Parce que comme la lumière et l'obscurité. Que lorsque la lumière combat l'obscurité, la lumière finit par gagner. Mais quand t'as une grosse obscurité, il faut une grosse lumière. Et le rabbin, il a dit, ça, je peux pas gérer ça, ça, il faut le rabbi. Il a fallu le rabbi qui donne des consignes, et je vous dis, je crois même que si mes souvenirs sont bons, le rabbi avait même fait un kamia, très très rare. T'sais, on n'a jamais vu le rabbi faire des kamias. Il a dit d'écrire soin. Un kamia, c'est une amulette. C'est-à-dire que ce monsieur-là, il devait se balader avec une amulette pendant un certain temps. C'était très spécial, c'est-à-dire que c'était du très très lourd. C'est pas de les blagues.
C'est-à-dire qu'il était
ensorcelé. Non, c'est des vraies histoires ce que je vous raconte, c'est pas des blagues. Ça veut dire que, voilà, la sorcellerie existe. Oui, les forces du mal existent. C'est des forces du mal. Les forces du mal existent et elle veut pas, et dès qu'elles en jouent, elle veut pas lâcher. Mais d'un autre côté.
Mais
tout le monde, nous on croit à ça. On n'a pas, si la Torah t'interdit de faire appel à la sorcellerie, c'est parce que ça existe. Parce que si ça n'existe pas, la Torah n'a pas besoin de le dire. La Torah ne te dit pas ne vole pas dans les airs, elle sait que tu veux pas voler dans les airs. Donc elle t'a pas besoin de le dire. Si la Torah te dit tu n'as pas le droit de laisser en vie une sorcière, c'est que la sorcellerie existe. Il y avait des gens, des nécromanciens. Vous savez ce que les nécromanciens? Ils faisaient parler les morts, etc. Mais des choses vraies, des choses qui véridiques. C'est des forces occultes, des forces du mal qui existent. Alors, quand c'est des petits joueurs, ben, les petits joueurs peuvent se battre. Quand c'est des gros joueurs, il faut les gros joueurs. Ça, c'est le rabbi qui s'occupe. Tzadikim. Tzadikim s'occupe. On a plein d'histoires comme ça, Tzadikim. Vous avez aussi l'histoire avec des 10 boucs. Moi, je veux pas faire soirée. hein? Vous connaissez pas les 10 boucs?
Des beaux mains.
Il y a un film comme ça, le 10 boucs.
Dieu préserve. Le 10 boucs, c'est quoi? Hein? Le 10 boucs, c'est lorsqu'il y a, voilà, exactement, je voulais pas le dire. C'est lorsqu'il y a un être qui s'empare de la personne, qui contrôle la personne de l'intérieur. Je fais pas sur moi, je fais sur lui.
Comme dans Ghost.
Et en fait, il fait dire des choses, etc. Et t'as l'histoire de Sadikim avec ça. Quand ils viennent chez cette personne-là, ils disent des textes, etc. Et à un moment, la fenêtre, elle pète. Le D-book, il est sorti. À un moment, tu vois, le doigt, il explose, t'as une boule de sang qui explose et la fenêtre, elle explose. Et le rabbi dit, c'est bon, il est parti.
Le golem, c'est considéré comment alors?
Le golem, c'est autre chose. Hein, le golem, c'est une force du bien, au contraire. C'est une création qui est faite par le bien. Donc, je dis pas ça pour vous terroriser. Je dis ça pour vous dire qu'il faut savoir que tout ce qui existe dans le bien existe dans le mal. C'est la règle. Donc, c'est pour ça que, de la même façon qu'un juif, s'il avance, il peut devenir un grand tzadik, et il peut avoir un attachement extraordinaire avec Akadosh Baruch Hu, de la même façon, le juif, s'il décide, il peut devenir un grand rachat. Autant il peut devenir un grand tzadik, autant il peut devenir un grand rachat. Ça dépend de qui? Que de moi. C'est moi qui décide, c'est lui qui décide. C'est toi qui as... Ça veut dire que la marge de manœuvre qu'on a est énorme. On a expliqué que pour les autres êtres humains, et même pour tout le reste du monde, l'être humain, il a un peu plus de marge de manœuvre, mais c'est quand même limité. C'est bon, t'es là, tu vas être un peu là ou un peu là. Mais la marge de manœuvre qu'un juif a, il peut être tout en haut ou tout en bas. C'est lui qui décide. Donc avec ça, on comprend pourquoi c'est tellement dangereux, pourquoi c'est tellement important. Et pourquoi le Yetzer Hara, il est là en train d'alimenter les forces du mal. Maintenant, je disais la chose suivante tout à l'heure. Je disais que forcément, tout ça a une fin. C'est-à-dire, quand t'as quelqu'un qui est là à faire la belle vie, etc. Maintenant, ça veut dire que t'as des gens, voilà, vraiment, qui sont dans le mal, profond. Au point qu'ils se rendent même plus compte. C'est-à-dire que le gars, il est à moitié pété, je m'excuse du terme, mais il est là, il comprend même pas qu'il y a un problème. Comment tu fais quand même comme ça? Plus personne peut lui parler. Il est dans une autre dimension. Un jour, ça s'arrête. Ça peut pas continuer non-stop. Pourquoi? Parce que finalement, on vend du vent. Vous savez, c'est comme ils appellent ça les spirales de... Pas la spirale de Ponzi, comment ça s'appelle ça? Les arnaques, vous savez c'est quoi les arnaques?
Pyramides.
Voilà, comme les pyramides. Comment ça marche les pyramides? Comme ce qu'il a fait celui qui est en prison, là, comment il s'appelle?
Madoff.
Ah bah oui. Comment ça marche les pyramides? Voilà. C'est par exemple, je dis à 10 personnes qui sont ici, je leur dis, vous devez chercher 10 personnes, enfin, chacun de vous va, et chacun va donner 10, etc. Et donc à la fin, tout revient à toi. Mais forcément, un jour, ça va pas tenir. C'est une pyramide. Forcément, le dernier, il éteint la lumière. Forcément, ça va se casser la figure. C'est pas possible. C'est une pyramide. Une fois, le rabbin dans un Fabringen, il a parlé de ça. Il a dit, il a reçu une lettre d'une femme apeurée, en 82. Et cette femme, elle lui dit, voilà, j'ai reçu une lettre de quelqu'un qui m'a dit que je suis une des 10 personnes qui a été sélectionnée, d'accord, Et attention à moi si j'envoie pas cette lettre à 10 personnes moi aussi. Et une lettre, vous savez comment c'était les lettres de l'époque.
Sur, hein, sur le groupe WhatsApp, quoi.
Voilà, exactement. Il faut envoyer à 10 personnes, de dire que tu payes 100 euros, je récupère 90, etc. Voilà. Et tu vas gagner, c'est sûr que tu vas gagner. Les pyramides, c'est d'accord, les pyramides de Ponzi, ils appellent ça. Alors, cette femme est apeurée, elle ne sait pas quoi faire parce qu'on l'a menacée dans cette lettre. On dit, voilà, tu as été sélectionné, tu es l'élu, l'élu. L'élu, tu vois. T'es l'élu et c'est peut-être que toi, et si c'est pas toi, etc. Apeuré, la femme, elle dit, je sais pas quoi faire. Alors, le rabbi, il lui a dit, bien sûr, je lui ai répondu de déchirer la lettre. Il n'y a pas de problème, qu'il n'y aura rien. Après, le rabbi, il dit, je me suis dit la chose suivante. Je me suis dit, si dans les forces du mal, ça marche comme ça, que, c'est-à-dire, ça démarre d'une personne, qui passe à 10, tu peux attraper la planète comme ça. Il dit, imaginez, si on appliquait la même chose dans la Kedusha. On va dire à chacun, tu vas influencer 10 personnes. Dans toute ta vie. Ne va pas 100 personnes, 1000 personnes. 10 personnes. Ton voisin, ton ami, ton cousin, 10 personnes. Avec 10 personnes, tu peux changer le monde. Même moins que 10 personnes en vérité. Parce que, tu vois, tu vas influencer 3 personnes. Si 3 personnes vont influencer 3 personnes, 3 personnes, 3 personnes, 3 personnes, 3 personnes, tu peux influencer 3 personnes. Si ça marche dans les forces du mal, après, ça marche dans les forces du bien.
La théorie de la poignée de main.
De là?
De la théorie de la poignée de main.
C'est quoi la poignée de main?
C'est-à-dire qu'on n'est jamais éloigné de n'importe quel individu sur Terre à plus de 5 ou 6 poignées de main. C'est ça. Parce que deux personnes qui connaissent deux personnes.
6 poignées de main.
Ça, je crois qu'un truc comme ça.
Si, c'est 6.
C'est
énorme.
Voilà, c'est ça.
Non, c'est pas beaucoup, justement.
C'est rien.
Ah, mais oui, c'est énorme, c'est extraordinaire.
Entre toi et le petit.
C'est entre moi et un qui est au fin fond de la Chine. 6 personnes.
Ça va être moi, un autre, on va aller
plus. Alors, connaît.
Alors, connectez-moi avec un bon, les Chinois, c'est à côté.
C'est avec Macron. C'est incroyable, on est 4 milliards ou 6 milliards.
Il y a 6
personnes
qui séparent
un inconnu qui se trouve en Laponie.
Donc le monde est petit.
Exactement.
C'est le copain du copain du copain et
bon, la famille. Le 6e, enfin, ouais, c'est le bon. On se
connaît. Bon.
Ouais. Une théorie, hein.
Ouais.
Non, mais c'est bon, c'est juste, ça peut se comprendre. Hein?
Ça paraît pas beaucoup, quand même.
Bah,
oui.
Je crois que c'est une preuve
arrêtée. Si tu veux, ouais. Je retrouve dans la main.
Ok.
Ça veut dire que je suis à 6 poignées de main par
exemple
de Macron, là.
Hein? Même moi?
Même?
Sers ma main, c'est bon.
T'es trop perplexe.
Hein? Non.
Mets un gilet jaune, tu peux t'inviter au bureau de demain.
Exactement, voilà. Mets un gilet jaune. Tu seras devant son bureau.
Bah voilà.
Parce que si toi tu mets un gilet jaune, tu vas être leur dirigeant.
Ah oui.
Et toi, tu as
toutes les dépenses. Et que des remarques là-bas. Mets un gilet jaune, ils vont dire Eric, président.
Oui, c'est leader. Voilà.
Ils pas des juifs.
Tu vois, là, c'est une théorie qui est faite par Longbois, Ralph Carinthy, en 1909, qui évoque cette idée que toute personne sur le globe peut être reliée à n'importe quel autre au travers d'une chaîne de relations individuelles comprenant au plus 6 personnes.
Voilà.
Il y a une théorie qui développe son nom, ça.
6 personnes.
Moi, ça me paraît peu, mais bon.
Bon. Très bien, on va continuer un petit peu. Veine. Allez, on avance encore 5 minutes. Veine. Yaakov. Vous avez dans les mots? En bas de la page.
Dans le monde.
La théorie de la séparation est mesurée à 4,74. Tu vois, donc c'est encore moins. Lui, en 1929, il n'avait pas le calcul. Aujourd'hui, avec les théories IO, ils sont même revenus. Ça passe à
4,74.
Ah oui, c'est vrai, avec les moyens de communication. WhatsApp, Facebook.
Tu peux envoyer un message à Macron, à son secrétariat.
Non, mais je pense pas que ça marche. C'est pas des relations.
Non, c'est pas pour que toi tu. C'est pour te dire que la possibilité de connexion.
De connexion sur WhatsApp, parce que je peux me connecter.
C'est pas juste dans le cercle des six personnes que tu connais, c'est lié à ça. Le côté obscur ou le côté de la kedusha, c'est moi qui décide. Et c'est pour ça que quand j'alimente les forces du mal, les forces du mal me bichonnent. Veine Yaakov revenachalat oktiv. Rappelez-vous ce qu'on a expliqué dans le chapitre 5, que le Ham Israël est comparé à une corde, al derech machal. Donc par analogie, considérons que moi, achivat shiroshoch al malavroch shenil mata. Il dit, ah, c'est très fort ce qu'il va dire ici. Prenez la corde. Vous avez une corde qui est très, 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 très grande. On a commencé cet exemple la dernière fois, ça fait deux cours. La corde, l'autre extrémité de la corde se trouve dans la Lune.
Ah oui.
Si je bouge un peu la corde ici, qu'est-ce qui se passe ? Tout bouge en vérité. Maintenant, imaginez ce qu'il va dire ici. D'un autre côté, si je tire la corde, tout descend.
Elle est où la corde ?
La corde. La corde, elle est à la Lune. D'accord ? La corde, elle est à la Lune, elle s'arrête là. Elle s'arrête ici. Elle s'arrête à 2 mètres du sol. Mais elle s'arrête là. Elle est en haut, elle est accrochée en haut, elle s'arrête là. Si moi je tire la corde, même en haut dans la Lune, ça va descendre. On est d'accord ?
On peut tirer.
Alors regardez ce que vous voulez nous amener. C'est très fort ce qu'il va dire ici. Imimshach Adam Berosho Hasheni, Inanea Vimashach Kamosho Hashek Kamashafir Leimashach. Donc si tu vas tirer la corde, l'autre extrémité de la corde va aussi être poussée, impactée, et surtout elle va être tirée au maximum où tu peux la tirer. Mais Kacha Mamash Peshoro Hashematam Okorom Khilatata Anal. C'est très fort qu'il dit ici. Dis, regarde. Il y a une corde qui relie constamment la partie haute de Taneshama à la partie basse de Taneshama. Parce que chacun de nous, à l'instant que je vous parle, il y a la partie basse de Taneshama qui est présente, qui est là, quand je suis en train de vous parler. Il y a une partie haute de Taneshama qui est chez Hachem. Mais ces deux parties sont constamment reliées. Quand je fais une Avera, qu'est-ce que je fais? Je tire ma Taneshama dans les forces du mal. Mais si je tire ma Taneshama, je ne tire pas que la Taneshama qui est en bas. Je tire aussi la Taneshama qui est en haut. Parce qu'elles sont reliées avec une corde. Donc, comme ça relie avec une corde, ben quand tu tires un, l'autre aussi, il est tiré automatiquement.
Non, elle ne bouge pas. Hein.
Oui. Mais sûr qu'elle bouge.
Si je tire, celle du haut, elle descend. Mais celle du bas, elle reste relée.
Justement, je te dis, c'est que la corde était là. Je la tire dans les forces du mal. Maneshama, je la tire dans les forces du mal.
Ça marche dans l'autre sens aussi.
Ça marche dans l'autre sens. Bien sûr que ça marche dans l'autre sens. Donc, ou Mamshir ou Morid, à l'idée, Massav, Marchevot, Avatar, Marchevot, Massav. Je sais pas si vous êtes en train de comprendre ce qu'on est en train de dire. Ça veut dire qu'on est en train de dire ici que lorsque je fais une Avera, je fais descendre tout le système de la Kedusha depuis tout en haut. Et où je l'amène? Vers les forces du mal. Parce que quand je fais une Avera, qu'est-ce que je fais? Je prends mon énergie et je dis à Hachem, au lieu de passer par là, tu passes par là. Mais c'est pas seulement une décision locale. C'est une décision qui a un impact jusqu'en haut, parce que pour qu'en bas ça descende, en haut ça descend aussi. Donc imaginez l'impact d'une Avera que nous faisons.
C'est grave.
C'est extrêmement grave. Mais d'un autre côté, comme tu as dit, imaginons aussi l'impact d'une mitzvah. Quand tu fais une mitzvah, c'est pas que la partie haute de la neshama qui s'élève, c'est la partie haute de la neshama. Donc ça nous permet de comprendre un peu mieux, je dis bien un peu mieux parce qu'il faut qu'on développe encore, la raison pour laquelle aujourd'hui qu'on est en exil, on a du mal à voir la cohérence entre les mitzvot et les récompenses et les averot et la punition. Pourquoi on a du mal à voir? Parce qu'en exil, à quel jour il a flouté un peu tout ça. C'est devenu un peu floué, donc on n'arrive pas à voir. Mais ça n'empêche pas que dans la réalité, un juif qui fait une avera aujourd'hui encore, pourquoi il vit bien? Parce que c'est les forces du mal qui s'occupent de lui. Donc à nous de savoir d'être des chassidim, d'être des juifs intelligents, et de dire, je ne suis pas intéressé à être alimenté par les forces du mal, je vais être alimenté par les forces du bien. Encore une fois, l'idée n'est pas encore développée entièrement, d'accord? Parce que la vraie question qu'on va poser la semaine prochaine, c'est est-ce qu'aujourd'hui il existe des vrais tzadikim et des vrais rechaim, comme à l'époque de la Gemara? À l'époque de la Gemara, il y avait des vrais rechaim, des pros. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des vrais rechaim? Parce que n'oublions pas que toujours il faut avoir une parfaite adéquation. Donc, est-ce qu'on a des vrais rechaim aujourd'hui?
Non.
Est-ce qu'on a des vrais tzadikim?
C'est pas un
vrai. Ça veut dire quelqu'un qui défie Dieu. Il regarde droit dans les yeux et il dit je faute.
C'est grave ça.
Je terminerai avec une anecdote qui va vous faire un peu réfléchir. Le rabbi de Kotsk. Une fois le rabbi de Kotsk, il y a eu un de ses chassidim qui est venu le voir. Il a dit, rabbi, je comprends pas. J'ai appris le nar. J'ai appris la Bible. La Bible, le nar. Les prophètes, etc. Toutes leurs vies sont pleines de fautes. Vous avez déjà étudié la Bible? Il y a que des problèmes. Des trucs que même nous, on n'a pas, même dans notre pire rêve, on n'a jamais pensé. Avodah Zara, et encore, débauche, Avodah Zara, catastrophe. Alors il dit, donc il a posé la question.
Dans les rois.
Ouvre, non, pas la Torah. Je parle pas le Chumash. Je parle le reste, tout le reste. Ouvre les rois, etc. Plus tu descends, plus ça descend. D'accord? Et tu, catastrophe. Donc il a posé la question, il dit, je comprends pas. En vérité, je lis ça et je me dis, comment ça fait partie de la Torah? Qu'est-ce qu'il lui a répondu le rabbi de Kotz? Il leur a dit, de leur averot à eux, on a fait une Torah. De tes mitzvot, on fera pas une Torah.
C'est grave, ça.
Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est le rabbi de Kotz qui répond toujours avec des idées très fortes et il expliquait pas.
Ça veut dire quoi?
Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire? Je vais vous expliquer comment j'ai compris ce qu'il veut dire. D'accord?
Hein?
À l'envers.
Mais derrière Epsha. Comment, après, il n'a pas expliqué. J'explique comment j'ai compris ce qu'il veut dire.
Ça veut dire à l'envers.
Ce qu'il veut dire, c'est comme ça. Il veut dire comme ça. Il te dit, eux, c'est grave ce qu'ils ont fait. Mais leur averot, c'est leur façon de communiquer avec Hachem. C'est-à-dire qu'ils sentaient Hachem. Seulement, leur façon, ils étaient révoltés. Mais ils sentaient Hachem. C'est-à-dire, ils regardent Hachem droit dans les yeux, ils disent, tu es là, je te connais, tu es à côté de moi, et je ne t'ignore pas, et je me bats avec toi. Mais ils parlaient avec Hachem. Nous, quand on fait une mitzvah, est-ce qu'on parle réellement avec Hachem? À méditer.
J'avais pas compris comme ça.
Connecting people.
Très vite.
On est dans le monde de la
communication. Ce qu'ils ne voulaient pas dire aussi de leur faute.